l'heure du journal de la rédaction avec vous Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. 1er mai, journée traditionnelle de manifestation syndicale. Cette année, ce sera également un rendez-vous de contestation pour les gilets jaunes. Les autorités craignent des débordements, notamment avec les ultra-jaunes et les black blocs. Journée test également au Venezuela, où le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, appelle à manifester à nouveau aujourd'hui. Il affirme avoir entamé ce qu'il appelle la phase finale de son projet de renversement du pouvoir. Face à lui, le chef de l'État, Nicolas Maduro, affirme que l'armée lui reste fidèle. Dans ce journal, nous évoquerons également le parcours d'Anémone, qui nous a quitté hier à 68 ans, une actrice populaire, mais également engagée en particulier pour l'environnement. Nous finirons cette édition avec l'invité spécial Caravane des Européennes, l'essayiste italien spécialiste du mouvement 5 étoiles, Massimiliano Panarari. C'est une journée test pour le pouvoir. Ce 1er mai va-t-il être le rendez-vous de la convergence des luttes entre les gilets jaunes et les syndicats? Ou va-t-on assister à un essoufflement de la contestation et même à des violences qui pourraient brouiller le message des manifestants qui ont des revendications sociales précises? L'un des éléments clés de cette journée de manifestation va être l'ampleur de la mobilisation. Et pour avoir des premiers éléments de réponse, on retrouve Maxime Fayolle. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous vous trouvez dans le quartier de Montparnasse à Paris, c'est le lieu de départ du cortège syndical qui va s'ébranler en début d'après-midi. Est-ce qu'il y a déjà du monde sur place ?
Oui, il y a déjà plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui sont arrivées à Montparnasse, même si vous l'avez dit, le cortège ne partira que cet après-midi vers 14h30. Il y a d'autres cortèges qui voulaient défiler ailleurs dans Paris. Ils ont finalement convergé ici à Montparnasse. On retrouve donc des gilets jaunes, des membres de la CGT. Il y a aussi énormément de journalistes qui sont parfois hués par la foule. Il y a aussi beaucoup de colère larvée dans les propos, notamment chez Claude, ce retraité qui pourtant débute la lutte avec les gilets jaunes.
Jamais, je n'ai jamais manifesté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment investi pour changer ce système. Comment ? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas un politique. Hein. Moi, je n'ai qu'une petite vision du peuple. Et nous, il faut qu'on se soulève. On n'a pas le choix. Hein. Parce que, voilà, on n'a pas les finances, nous, on n'a rien. Je suis là parce que ça fait 40 ans que je crois dans la politique. Je crois dans le système politique. Mais aujourd'hui, on n'y croit plus. On n'y croit plus.
Claude qui est venu avec sa fille, Edith qui est professeure, elle est mobilisée depuis le mois de décembre. Elle se dit attristée finalement par ce que propose le chef de l'État Emmanuel Macron, des mesurettes qui sont insuffisantes selon elle.
Je fais partie de ceux qui disent le minimum serait le vote blanc, la prise en compte du vote blanc déjà, ce serait une très bonne chose parce qu'on voudrait être vraiment représenté. Et puis après, moi je suis aussi beaucoup pour la revalorisation du travail en général, que les gens qui travaillent soient mieux payés. Quel que soit leur statut, que voilà, les petits ouvriers, les patrons, enfin tous les. Voilà, que le travail soit valorisé.
Et Claude qui vont donc converger jusqu'à la place d'Italie tout à l'heure, donc à partir de 14h30. Il y a évidemment, et vous vous en doutez, énormément de forces de l'ordre derrière nous, car la crainte du gouvernement, c'est que la mobilisation dégénère, qu'elle soit infiltrée par des black blocs. On en attend entre 1000 et 2000. Pour le moment, mais la mobilisation vient de débuter, le calme règne, mais ça pourrait changer en cours d'après-midi.
Merci à vous Maxime Fayolle et merci également à Stéphane Beaufils à la technique. Effectivement, la crainte c'est que cette journée ne soit perturbée par des groupes radicaux, des ultra-jaunes ou des black blocs, à l'image de ce qui s'est passé l'année dernière. Ils promettent d'ailleurs une journée d'apocalypse, ce sont leurs termes. L'exécutif veut faire mentir cette promesse et il a engagé un sérieux dispositif de sécurité. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Alors à Paris, ce sont plus de 7400 policiers et gendarmes qui sont déployés.
7400 membres des forces de l'ordre, en effet, pour encadrer les cortèges, et notamment celui de 14h30, au départ de Montparnasse, direction la place d'Italie, cortège intersyndical à l'appel de la CGT, FSU ou encore Force ouvrière. Des forces de l'ordre qui devront encore être très réactives. 190 binômes de policiers sillonnent Paris à moto. Des drones sont prévus également pour suivre les manifestations. Manifestations qui sont d'ailleurs interdites sur les Champs-Élysées au sens large, c'est-à-dire incluant la Concorde, l'Arc de Triomphe et l'Assemblée nationale, mais aussi le quartier du Sacré-Cœur et le secteur de Notre-Dame de Paris. Tout le long du défilé intersyndical entre Montparnasse et la place d'Italie cet après-midi, les commerçants doivent baisser leurs rideaux et même se barricader. C'est un chiffre qui en dit long sur les craintes des autorités. Près de 600 commerces sont concernés par un arrêté préfectoral électoral. Les terrasses le long du parcours doivent aussi être vidées de tout mobilier qui pourrait servir de projectiles ou d'armes. Les défilés sont rejoints cette année par les gilets jaunes déçus par les annonces d'Emmanuel Macron, mais aussi sans doute par les militants radicaux Black Bloc, vous l'avez dit. Les services de renseignement craignent l'arrivée de 1000 à 2000 activistes, dont quelques dizaines venus de l'étranger. La nuit dernière déjà, trois Espagnols lourdement équipés membres des Black Blocs ont été interpellés à Paris. Des rassemblements à risque enfin sont également redoutés dans plusieurs autres grandes villes telles que Rennes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse ou Nancy.
Merci à vous Claire Flechel. Mobilisation également en région pour ce 1er mai, notamment à Marseille où Jean-Luc Mélenchon et la tête de liste de la France Insoumise pour les Européennes, Manon Aubry, ont défilé ce matin. Olivier Martoc était sur place.
Marseille, c'est toujours un peu particulier. FO, le premier syndicat sur la ville, ne manifestait pas ce matin, mais tenait meeting à la Bourse du Travail, en présence du secrétaire général de la Confédération, Yves Verrier.
Chaque 1er mai, chaque année, les syndicats se mobilisent. Alors, évidemment, chaque année, ça n'est pas une grande journée de manifestation, forcément, mais c'est effectivement une journée où les adhérents se regroupent, discutent, débattent, où on resserre les rangs et le syndicat repart regonflé. Les adhérents repartent regonflés sur les revendications du moment, les salaires, la retraite, le service public, la fonction publique.
Dans la rue donc, la CGT, Sud, la FSU, mais aussi des partis politiques comme le PC et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry avaient choisi Marseille pour défiler.
Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des Gilets jaunes. C'est ça qui est nouveau. Jusqu'à quel point, dans quelle proportion, comment tout ça se mélange bien ou mal, c'est ça la grande question politique, parce que nous sommes dans une situation qui est du jamais vu. Jamais un événement comme celui-là n'a eu lieu en France, d'un mouvement social qui dure 24 semaines.
Beaucoup de gilets jaunes également dans le cortège, et une démonstration de force au final réussie. Ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde dans les défilés à Marseille, un 1er mai.
L'usine PSA de Mulhouse va se séparer d'un millier de travailleurs intérimaires à l'automne prochain, conséquence de son arrêt de la fabrication de la Peugeot 2008. C'est ce qu'on a appris de sources syndicales. La direction du site confirme l'arrêt de ce modèle à la fin de l'année, mais elle ne donne pas de chiffres sur son impact social. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Marette.
Cette information est donc tombée la veille des chiffres mensuels du marché automobile français qui sont plutôt bons.
Oui, une annonce qui passe d'autant plus mal que ce matin, le groupe a publié ses résultats, des résultats en hausse de 6,7%, ce qui montre bien la bonne santé du constructeur qui était au bord de la faillite en 2013. Dès son arrivée, Carlos Tabarez, le PDG, a certes redressé l'entreprise de façon spectaculaire, mais pour y parvenir, il a dû mettre en place deux gros plans de restructuration, Back in the Race et Push to Pass, avec plus de 20 000 emplois supprimés et des véhicules de plus en plus construits sur ces sites étrangers. Et la 2008 fabriquée à Mulhouse ne va pas échapper, puisque ce modèle qui se vend pourtant très bien en France sera désormais fabriqué sur le site de Vigo de PSA en Espagne. Une manière pour le constructeur de réduire ses coûts par rapport au coût du travail en France, ce qui va lui permettre d'accroître encore plus ses marges déjà records, puisque PSA a connu en 2018 une année historique avec un bénéfice de 2,83 milliards d'euros, soit une hausse de 47% rien que pour 2018, ce qui a permis aux salariés, certes, de toucher une prime pour les plus modestes d'entre eux de 3810 euros. En attendant, la baisse des effectifs aura des répercussions sur l'emploi à Mulhouse, car PSA est l'un des plus gros employeurs localement. De son côté, la direction explique qu'un nouveau modèle arrivera sur les chaînes de Mulhouse en 2021, ce qui fera encore attendre 2 ans. Rappelons qu'aujourd'hui, PSA ne produit plus que 34% de ses véhicules en France.
Merci Hakim Kasmi. Midi passé de 39 minutes sur France Culture, difficile de démêler le vrai du faux au Venezuela où la situation est très confuse depuis hier. D'un côté, le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, affirme avoir entamé ce qu'il appelle la phase finale de son projet de renversement du pouvoir. Il appelle la population et l'armée au soulèvement. Et de l'autre, le chef de l'État, Nicolas Maduro, qui affirme que l'armée est loyale. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Alors quel est le rapport de force entre les deux hommes?
Justement, ce 1er mai va être une nouvelle épreuve de force entre l'opposition l'opposition et le pouvoir vénézuélien. Chaque parti est appelé à manifester partout dans le pays pour évaluer ses soutiens. Hier, il y a eu des échauffourées entre militaires et contestataires. 78 personnes ont été blessées. Les partisans de Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim et demande aux soldats de le rejoindre, vont aujourd'hui, je cite, continuer d'avancer dans l'opération Liberté et se rendre massivement dans les rues. Pour sa part, le président Nicolas Maduro, qui assure que les dirigeants de l'état-major lui étaient d'une totale loyauté et qu'il engagera des poursuites pénales contre les militaires qui se sont ralliés à Guaido, écrit sur Twitter « Des nerfs d'acier, j'appelle à une mobilisation populaire maximale pour garantir la victoire de la paix. Défenseurs de la liberté contre défenseurs de la paix, de quel côté vont pencher les Vénézuéliens ? En janvier dernier, les manifestations se sont soldées par une quarantaine de morts et 850 arrestations. Les pressions extérieures s'accélèrent. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien, a déclaré le président américain Donald Trump. Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a lui lancé un ultimatum aux dirigeants militaires vénézuéliens. Votre heure a sonné, c'est votre dernière chance. Le groupe de Lima, qui compte 13 pays latino-américains et le Canada, a annoncé qu'il se réunirait d'urgence vendredi. Cuba, la Bolivie, la Turquie, la Russie se sont rangés aux côtés de Maduro. La représentante de la diplomatie européenne et le secrétaire général de l'ONU ont appelé au calme.
Merci à vous, Nadine Epstein. Au Sri Lanka, le gouvernement a interdit lundi dernier le port du niqab, le voile musulman qui couvre le visage, dans le cadre de l'état d'urgence imposé après les attentats du dimanche de Pâques. La communauté musulmane de l'île, qui représente près de 10% de la population, affirme vouloir suivre ces mesures exceptionnelles. Explication du correspondant régional de RFI Radio France dans la région, Sébastien Farsi.
Au Sri Lanka, l'islam est relativement libéral et une petite minorité seulement de musulmanes porte le niqab, ce voile qui couvre le visage. Mais les oulémas disent comprendre ce qui a poussé à son interdiction, comme l'explique Marina Tafar Refai, prédicatrice et coordinatrice d'une association pour l'éducation des femmes musulmanes à Colombo.
Aucun des terroristes du Sri Lanka n'a utilisé de voile intégrale pour mener cette attaque. Donc nous savons que cette interdiction est un prétexte. Mais nous sommes conscients de la peur et de la colère dont souffrent les victimes et nous les soutenons. Donc nous sommes prêts à enlever ce voile et ferons tout ce que nous pourrons pour aider à éradiquer ce terrorisme du Sri Lanka. Nous savons du reste qu'il serait dangereux de contester cette mesure car cela nous rendrait suspects et il y a d'autres personnes qui en profiteraient pour nous assimiler avec ces terroristes.
Cette prédicatrice espère que cette interdiction demeurera une mesure d'exception pendant la chasse actuelle aux terroristes et qu'elle sera levée dans quelques semaines quand la tension sécuritaire sera retombée au Sri Lanka.
Il faut désormais payer pour accéder à Venise, comme dans un musée. La Cité des Doges impose à partir d'aujourd'hui une taxe d'entrée, un moyen pour les autorités de sauver la ville du tourisme de masse. Sur place, le reportage d'Antonino Gallofaro.
Je préfère avoir moins d'argent, mais des touristes plus éduqués. Le maire de Venise connaît les risques qu'engendre une nouvelle taxe, mais il n'en peut plus de l'irrespect des visiteurs, comme ceux-ci qui se baignent dans les canaux à la place des gondoles ou ceux-là qui laissent leurs déchets place Saint-Marc. Alors dès aujourd'hui, chaque touriste, italien comme étranger, devra payer 3 euros pour entrer dans la ville. Le maire de la Sérénissime veut que cette nouvelle mesure soit discrète, alors il l'introduit doucement. Elle passera à régime normal dès 2020 à 6 euros et sera de 8 ou 10 euros selon les périodes d'affluence, comme lors du carnaval par exemple. Les habitants, les étudiants et les travailleurs en seront bien sûr dispensés, comme les enfants de moins de 6 ans ou les personnes handicapées notamment. Cette mesure répond au tourisme de masse dont est victime Venise, surtout celui des croisières, ces touristes qui ne restent dans la ville qu'une journée et ne payent ainsi pas la taxe de séjour. Selon les derniers chiffres, le centre historique a accueilli en 2017 près de 8 millions de personnes, alors qu'il ne compte que 54 000 habitants. Pour les autorités vénitiennes, les coûts de gestion et de nettoyage dus au tourisme sont aujourd'hui bien trop élevés.
L'empereur Naruhito du Japon accède officiellement au trône. Il a accompli ses premières obligations en tant que 126e empereur du Japon. Il a promis de se tenir toujours aux côtés du peuple au lendemain de l'abdication de son père Akihito. Au cours d'un cérémonial très codifié de 6 minutes seulement, le nouveau souverain de 59 ans a acté son accession au trône du chrysanthème devant une assistance d'où les femmes de la famille impériale étaient exclues. La seule invitée était l'unique ministre féminine du gouvernement de Shinzo Abe. C'était en mars dernier, Mark Zuckerberg choquait les investisseurs en annonçant un changement radical de stratégie pour Facebook. Son objectif, faire de Facebook un salon privé plutôt qu'une place publique, privilégier les messageries au mur d'information avec son lot d'infox. Le nouveau mot d'ordre, c'est construire une plateforme digne de confiance. Le message a été répété lors d'un discours hier à San José, en Californie, lors du grand rendez-vous annuel entre Facebook et les développeurs d'applications, le fameux F8. À Los Angeles, le reportage de Loïc Piala.
En 2010, Mark Zuckerberg parlait du respect de la vie privée comme d'une norme sociale moins essentielle que dans le passé. Le patron de Facebook a visiblement changé d'avis. Hier, il s'en est fait le fervent défenseur.
Je crois que le futur sera privé. C'est un nouveau chapitre pour nos services. Dans nos vies numériques, comme dans la vraie vie, nous avons besoin d'un espace public et d'un espace privé. Notre vie privée nous donne la liberté d'être nous-mêmes.
De multiples scandales de données personnelles piratées l'ont sans doute aidé à réviser son jugement. Il a prévenu que l'application Messenger serait bientôt cryptée par défaut, comme l'est déjà WhatsApp, l'autre messagerie du groupe. Impossible ou presque alors pour un pirate, un gouvernement ou même Facebook d'espionner nos conversations.
Je sais bien que beaucoup de gens ne pensent pas que l'on soit sérieux à ce sujet. Je me rends bien compte que Facebook n'a pas la meilleure réputation qui soit en ce qui concerne le respect de la vie privée.
Mais Zuckerberg n'a fait aucune allusion à l'amende de 5 milliards de dollars que le gouvernement américain pourrait infliger à la plateforme dans le cadre d'une enquête sur l'affaire Cambridge Analytica. Il n'a pas non plus évoqué l'attentat de Christchurch diffusé en direct sur Facebook Live par le terroriste. Le milliardaire s'est contenté de rappeler que les outils de Facebook devaient être utilisés pour faire le bien.
Beaucoup se souviennent d'elle comme l'inoubliable Thérèse, bourgeoise coincée avec son serre-tête en velours et son collier de perles dans Le Père Noël est une ordure, ou encore Alexandra, la hippie déjantée dans le film Les Babacools. Mais Anémone avait également incarné des rôles sensibles comme Marcel, une femme en mal d'enfant dans Le Grand Chemin, ou encore Mélanie, une mère qui doit affronter la maladie de sa petite fille dans Le Petit Prince. A dit Anémone, qui nous a quittés hier à 68 ans, était tout cela, mais pas seulement, c'était aussi une femme engagée, Lauriane Hervard.
Quelqu'un qui était sans paillettes, c'est ce que retient Dominique Plion, le porte-parole d'Attaque, car Anémone très vite s'engage. En 98, elle rejoint l'association altermondialiste. Elle préfère la scène de la rue et des débats au bling-bling du showbiz. Une Anémone altermondialiste et écolo. En 2003, pour soutenir José Bové, l'actrice participe à une action d'arrachage de soja OGM aux côtés d'autres comédiens et de quelques politiques. Et la politique, elle s'y était déjà frottée en 95, candidate aux élections municipales à Paris sur une liste écolo dans le 20e arrondissement. Des années après, on sent que sa ferveur commence à s'effriter. Elle s'exprimait en 2006 sur l'antenne de nos confrères de France Bleu Poitou.
C'est ça qui me désespère, quoi. C'est que l'alternative écologique qui suppose un changement complet de système économique, il n'y a pas de candidat unique pour porter cette demande, en fin de compte. Alors, la droite, c'est une espèce de gauche ultra-autoritaire et injuste au point qu'on a envie de les étrangler. Mais la gauche, enfin, le PS n'a pas compris non plus grand-chose au film. Il se contente de mettre des rustines sur un système qui ne marche plus et puis qui est en train de péter de toutes parts. Donc, il faudrait plutôt s'atteler à la reconversion que d'attendre que tout nous tombe sur la tête pour se retrouver dans un chaos économique, social abominable.
Et finalement, en 2012, pour la présidentielle, Anémone soutient Jean-Luc Mélenchon, le seul, selon elle, qui a intégré l'écologie à son logiciel. Mais plus tard, désenchantement, et avec ces mots trash qu'on lui connaît, Anémone qualifie le président de la France insoumise de vieux politicard et de vieux stalinien. Alors que ce soit le cinéma ou la politique, finalement, Anémone envoie tout valser. Bon débarras. Petite phrase qu'elle avait lancée en 2017, au moment d'annoncer sa retraite.
Merci Lauriane Hervard. C'est une information qui vient de tomber. Julian Assange a été condamné à 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire à Londres. Midi passé de 48 minutes sur France Culture, l'invité de ce journal pour la caravane des Européennes est le sociologue italien Massimiliano Panarari. Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Vous êtes notamment spécialiste du mouvement 5 étoiles. On l'a entendu au début de ce journal, c'est une journée test en France pour les Gilets jaunes. Comment ce mouvement est perçu depuis l'Italie ?
Et il est perçu de façon très différente, dans le sens que parmi les militants et les électeurs du mouvement 5 étoiles, par exemple, il est perçu de la façon d'une espèce de réponse française ou bien d'une version française de tout ce qui s'est passé et qui a permis au mouvement 5 étoiles de devenir une, en partie une force politique tellement importante à l'intérieur du système politique italien. De l'autre côté, de la partie d'une autre, d'autres secteurs de l'opinion publique, on a la perception de mouvements insurrectionnels qui constituent une espèce de menace, surtout dans les ailes et les courants les plus violentes, à la stabilité de la France, des institutions démocratiques et dans un certain sens à l'idée d'une Europe comme un système politique équilibré, de conflits régulés et réglementés.
Question de Cécile de Carvaz-Doué.
Oui, en quoi finalement est-ce que ce mouvement 5 étoiles est un peu une figure comme un laboratoire politique pour le reste des pays européens? Parce qu'on a beaucoup dit effectivement que ce qui se passait en Italie était, agissait comme un miroir par rapport à ce qui se passe en France.
Oui, c'est vrai. Il y a un miroir, mais il y a aussi de différences extrêmement fortes. Dans le sens que le mouvement 5 étoiles a recueilli et a représenté en Italie une espèce de réalisation politique et d'offre politique par rapport aux mêmes sensations, sentiments, rage, désir de changement qui en France a été interprété et interprété à ce moment-là par les Gilets jaunes. Mais il y a des différences qui représentent la dimension politique, c'est-à-dire la structuration tout de suite de la partie du mouvement 5 étoiles d'une réponse en termes d'offres politiques à ces sentiments populaires, à ces malaises sociaux et économiques, mais aussi à des transformations du point de vue social, de la perception de la réalité, de l'auto-perception de soi-même des parties de la population italienne, qui ont trouvé justement à l'intérieur du mouvement une espèce de concrétisation politique par une élite politique et par un groupe dirigeant qui, c'est mon impression, n'est pas trouvable à l'intérieur du mouvement du mouvement des Gilets jaunes, qui est beaucoup plus rhizomatique et qui recueille des instances différentes sans la présence d'une leadership politique et des organisations politiques structurées.
Oui, ce que vous dites dans votre livre hein, sur le mouvement 5 étoiles, c'est qu'effectivement, le mouvement 5 étoiles, finalement, c'était un mouvement qui était structuré, qui était planifié et qui s'est appuyé, finalement, sur les réseaux sociaux, un peu à la manière de Cambridge Analytica dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait, c'est exactement ça. Dans le sens qu'à partir du premier moment de la présence d'une demande sociale de changement à l'intérieur de la population italienne, c'est-à-dire le début des années 2000, et le mouvement 5 étoiles a représenté la structuration qui venait d'une entreprise privée, qui venait d'une petite groupe dirigeant, qui venait d'une série de spécialistes de médias et de la communication, qui ont permis à cette tendance, à ces instances présentes à l'intérieur du peuple italien, de trouver justement une offre politique. Mais on ne peut pas parler de ce point de vue d'une insurgence, mais plutôt d'un travail extrêmement planifié, extrêmement organisé, et qui a trouvé dans la forme du mouvement, la forme du mouvement présentée comme différente par rapport à la forme partie, justement une espèce de débouche.
Est-ce que ça s'appuie finalement sur un contexte très italien ou un contexte qu'on peut retrouver dans le reste de l'Europe, à savoir une sorte de délitement des services publics? Il y a, on sait en Italie, un manque incroyable de médecins. Il y a aussi une sorte de disparition finalement des lieux de culture ou d'une culture partagée. Une étude parue à l'université La Sapienza expliquait que finalement pour un Italien, il faut faire une demi-heure de route pour trouver une librairie, que les Italiens lisent de moins en moins. Est-ce que tout ça, c'est spécifique à l'Italie ou est-ce qu'il vous semble quand même qu'il y a des résonances dans le reste de l'Europe ?
On peut parler effectivement de résonance dans le reste de l'Europe, mais l'Italie se présente encore une fois comme un véritable laboratoire, dans le sens que les données que vous avez citées donnent la sensation extrêmement concrète, extrêmement claire, d'une déculturation de l'Italie qui vient de loin. On pourrait dire que la fragilité du contexte italien, qui la faiblesse du système politique italien par rapport à l'idée et aux racines de la démocratie libérale représentative, ont trouvé un débouché voilà, dans les côtés culturels. Dans le sens que la faiblesse des instruments critiques pour comprendre, déchiffrer la réalité. l'absence de lieux de culture, la déstructuration du service public en Italie, dont la compétition et la concurrence avec le télévision privé, avec le déluge commercial de l'offre de network, de médias, de formes de information alternative au service public, a sûrement donné son contribution à une situation à l'intérieur de laquelle, comme Eurobaromètre a démontré, les Italiens représentent la première population à l'intérieur de l'Europe qui a beaucoup de difficultés, et les difficultés les plus évidentes et les plus marquées, à distinguer entre les données des réalités et la perception, l'interprétation de la réalité même.
Merci beaucoup à vous, Massimiliano Panarari, d'avoir accepté notre interview dans le journal de France Culture. Merci également à Cécile de Carvaz-Douai. Cet après-midi du grand classique, il va pleuvoir sur la Normandie et la Bretagne. Le soleil va dominer sur le reste du pays. Température stable, 11 degrés seulement au Havre, 16 à Biarritz, 19 à Paris, 21 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Excellente fête du travail à tous. Ce soir, c'est Stanislas Vazak qui vous présentera le journal de 18h.